VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 18 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seroudia et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
En RDC, réunion de la tripartite, gouvernement, conseil national de suivi de l'accord et CENI après l'annonce sur un retard dans le calendrier électoral.
Le secrétaire général de l'ONU recommande de renforcer de 900 casques bleus la MINUSCA en Centrafrique.
Juba montre peu d'enthousiasme pour une nouvelle initiative régionale de paix pour le Soudan du Sud.
Ici aux États-Unis, un juge fédéral bloque la dernière version du décret migratoire du président Donald Trump. Colère de la Maison-Blanche.
En Syrie, fin des opérations militaires de FDS à Raqqa, l'ex-capitale de facto du groupe État islamique.
Ouverture à Pékin du 19e congrès du Parti communiste chinois.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
À quand les élections en RDC? C'est la question qui alimente les débats politiques présentement à Kinshasa après l'annonce par la commission électorale de 504 jours de plus à la fin de l'enrôlement pour la tenue de la présidentielle et des législatives nationales et provinciales. La tripartite, gouvernement, conseil national de suivi de l'accord et CENI, qui se tient présentement dans la capitale de la RDC, doit trancher. Correspondance de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Réunis depuis le samedi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement et la CENI discutent de l'organisation prochaine des élections en RDC après que la commission électorale ait annoncé avoir besoin de 504 jours après l'enrôlement pour sa tenue. Il s'agit donc pour la tripartite CENSA gouvernement CENI d'évaluer et de déterminer, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, la suite du processus électoral. Présentement, les travaux se déroulent en commission et les conclusions en plénière sont attendues, sauf imprévu, ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, la semaine dernière, au cours d'un échange avec les délégués de la société civile, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangave, soulignait la nécessité de disposer de ce délai de 504 jours afin de mener certaines opérations indispensables à la tenue d'élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Annonce qui renvoie donc les élections à la deuxième moitié de l'année 2019 et qui a suscité de nombreuses réactions à l'opposition. Le rassemblement de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis politiques d'opposition ont dit non à cette proposition de la centrale électorale, critiquée également par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga Ntita. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'un des 7 membres de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission aujourd'hui, accusant ses collègues de partialité politique et affirmant que la commission ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Cette démission alimente la crise politique née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya, le 1er septembre, de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la course, qu'il n'a pas encore formalisé, estimant que la commission n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable.
Le secrétaire général de l'ONU recommande de renforcer de 900 casques bleus la mission de paix, la MINUSCA, en Centrafrique, en raison d'un nouveau cycle de violence. Antonio Guterres a fait cette recommandation dans un rapport transmis mardi aux membres du Conseil de sécurité. La situation humanitaire dans le pays est une grave préoccupation, ajoute Antonio Guterres, qui doit se rendre prochainement en Centrafrique, sa première visite à une opération de paix de l'ONU depuis sa prise de fonction en janvier. Le mandat de la MINUSCA arrive à échéance en novembre.
Le président Jacob Zuma a limogé son ministre de l'Enseignement supérieur, membre du Parti communiste, un des alliés historiques de l'ANC. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Blaise Nsimande s'est fait remarquer pour ses critiques contre le président Jacob Zuma, mêlé à beaucoup de scandales de corruption. En juillet, il avait lancé « Nous nous sentons trahis ». Le Parti communiste sud-africain a accusé le président Zuma d'autoritarisme. Le secrétaire général de l'ANC, Bédé Mantassé, parle d'actes nuisibles à l'alliance entre l'ANC et le Parti communiste. Le remaniement a vu l'arrivée du ministre de la Sécurité d'État, David Malombo, au portefeuille de l'énergie. M. Zuma a déjà remanié son gouvernement en mars dernier en se séparant d'un autre critique, le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Le chef de l'opposition, Mounsi Maïmane, considère que Jacob Zuma écarte ses adversaires et fait la promotion de ceux qui le soutiennent en vue de la conférence de l'ANC. Le parti va élire en décembre son porte-parole aux élections de 2019. Le président sud-africain soutient son ex-épouse Nkosasana Dlamini Zuma contre le vice-président Cyril Ramaphosa, soutenu par le Parti communiste et la COSATU, la principale centrale syndicale.
Le gouvernement du Soudan du Sud a montré peu d'enthousiasme pour une nouvelle initiative de paix régionale que Washington considère comme une dernière chance pour en finir avec la guerre. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déploré devant le Conseil de sécurité la réponse tiède du gouvernement sud-soudanais. Il a évoqué un forum de revitalisation de l'accord de 2015, initié par 7 pays sous la direction de l'Éthiopie. Il a indiqué que ce groupe a récemment rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar, le chef rebelle exilé en Afrique du Sud. Ces derniers et d'autres dirigeants de l'opposition ont aussi apporté un soutien prudent à cette initiative. Jean-Pierre Lacroix a également dénoncé la poursuite des entraves à l'aide humanitaire. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, doit se rendre dans les prochains jours à Djouba pour faire pression sur les belligérants. Le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le conflit a éclaté 2 ans et demi après l'indépendance du plus jeune pays du continent en juillet 2011.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche a réagi avec colère à la décision d'un juge fédéral de bloquer la dernière version de son décret migratoire qui devait entrer en vigueur mercredi à minuit. Dans un communiqué peu après la décision du juge Derek Watson de Hawaï, l'exécutif américain a estimé que cet ordre, qui est porteur d'erreurs dangereuses, sape les efforts du président pour assurer la sécurité du peuple américain et appliquer un minimum de critères sécuritaires pour entrer aux États-Unis.
Pour le juge, cependant, le dernier décret de M. Trump ne donnait pas assez d'informations pour respecter ces critères sécuritaires. Le ministère de la Justice va faire appel. Le décret migratoire aurait affecté à des degrés divers le Tchad, l'Iran, la Libye, la Somalie, la Syrie et le Yémen. Pas de changement pour la Corée du Nord et le Venezuela, les 2 autres pays concernés par ce document.
En Syrie, les forces démocratiques syriennes qu'appuient les États-Unis ont pris aux militants du groupe État islamique les derniers secteurs qu'ils tenaient encore à Raqqa. Les opérations militaires à Raqqa ont pris fin. La ville est sous le contrôle total des FDS, a déclaré mardi à l'AFP Talal Selo, un porte-parole de l'Alliance. Il y a actuellement des opérations de ratissage pour éliminer les cellules dormantes, si on en trouve, et pour déminer la ville, a-t-il ajouté. Le groupe djihadiste a perdu Raqqa, sa capitale de facto, après des mois de combats qui ont transformé cette ville septentrionale en un champ de ruines.
Des milliers de Catalans sont descendus dans la rue mardi contre la mise en détention de 2 importants responsables indépendantistes. La crise entre Madrid et les séparatistes est de plus en plus aiguë. Claire Morin-Gibou.
En début de soirée, des milliers de personnes s'étaient massées sur l'une des plus grandes intersections de Barcelone, armées de bougies et criant « Libertad, Libertad, Libertad ». À midi, des milliers d'employés avaient cessé de travailler et se sont rassemblés quelques minutes pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Le président séparatiste catalan, Carles Puigdemont et Ada Colau, maire de la ville, se sont joints aux manifestants. Il reste près de 24 heures avant la fin de l'ultimatum donné par Madrid, qui a menacé de suspendre totalement ou partiellement l'autonomie de la Catalogne. La Cour constitutionnelle espagnole a définitivement annulé la loi catalane organisant le référendum, alors que Carles Puigdemont laisse toujours planer la possibilité d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Le Premier ministre espagnol refuse tout dialogue tant que les séparatistes n'auront pas clairement renoncé à toute velléité de sécession.
Le Parti communiste chinois a donné aujourd'hui le coup d'envoi de son 19e congrès qui offrira un nouveau sacre à Xi Jinping, devenu le dirigeant le plus puissant du pays depuis au moins deux décennies. La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
Airbnb en Afrique, le site de location d'hébergement entre particuliers se développe sur le continent. Au cours de l'année écoulée, 1,2 million de visiteurs ont bénéficié des services de cette plateforme créée en 2008. Elle compte aujourd'hui plus de 100 000 hébergements sur le continent et des millions d'autres à travers 191 pays de la planète. Selon Chris Lehan, directeur mondial des affaires publiques d'Airbnb, la société investira 1 million d'euros d'ici 2020 pour promouvoir et soutenir des projets de développement touristique à destination des communautés en Afrique. Quelques 651 000 touristes ont utilisé les services du site Airbnb, soit une hausse de 143% par rapport à l'année précédente. L'impact économique de ces visites est estimé à 247 millions de dollars. Au Burkina Faso, le leader local de la distribution de gaz en bouteille part à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. La société prévoit un investissement de 10 à 15 milliards de francs CFA au cours des trois prochaines années. Aujourd'hui, aux commandes de la fille cadette de son fondateur, l'entreprise familiale a atteint un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs CFA contre 27,9 milliards engrangés un an plus tôt. Sodigaz détient 60% du marché burkinabé, estimé à plus de 73 000 tonnes en 2016, et prévoit l'installation de filiales au Ghana et au Bénin.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Nessa, bonjour à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, qualification du Mali pour les quarts de finale.
Net et sans bavure, cette victoire des Aiglonais qui ont laminé l'Irak 5 buts à 1 hier en Inde. Dramé Ndiaye par deux fois, Konaté et Camara sont les buteurs maliens. Les Anglais, de leur côté, se qualifient dans la douleur sur pénalty face aux Japonais 0-0 à la fin du temps réglementaire. L'Espagne bat la France, demain l'Iran domine le Mexique. 2-1. À suivre ce mercredi le choc africain pour affronter le Mali en quart de finale. Le Ghana face au MENA du Niger en huitième de finale.
Soirée de Ligue des Champions hier en Europe.
Manchester City a remporté le choc du groupe F face à Naples 2-1 au terme d'un match haletant qui a vu les deux équipes dominer chacune une période. Le Guinéen Amadou Diawara, buteur pour Naples. Le Real Madrid a dû concéder le match nul à Santiago Bernabéu face à Tottenham, 1-1, mais reste en tête du groupe, à égalité de points avec les Spurs. De son côté, Dortmund a été accroché à Nicosie, 1-1. Auteur d'une prestation plus solide que son adversaire, le Shakhtar Donetsk a battu 2-1 le Feyenoord de Rotterdam. Les Monégasques qui ont été battus à domicile au Stade Louis II par Beşiktaş 2-1. Et puis Liverpool qui a pris la tête du groupe E en battant largement Maribor 7-0. Liverpool réalise le plus gros carton à l'extérieur de l'histoire de la Ligue des Champions. Tandis que le Spartak Moscou a été étonnant, victoire 5-1 face au FC Séville.
Le président de la CAF au Maroc.
Eh oui, le malgache Ahmad était à Rabat pour une réunion de travail avec le président de la Fédération royale marocaine et le ministre marocain des Sports. Ahmad qui revient en exclusivité sur VOA Afrique sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc après le retrait de l'organisation au Kenya.
En termes d'infrastructure, même si on commence aujourd'hui les compétitions, il n'y a rien à toucher.
Le président de la CAF, Ahmad, joint hier à Rabat. Une interview à retrouver sur voaafrique.com.
La NBA reprend ses droits, coup d'envoi mardi soir de la saison 2017-2018.
Qui pourra battre Golden State? Idrissa, c'est la grande question. Les Warriors qui règnent sans partage sur la NBA avec deux titres conquis lors des trois dernières saisons et une flopée de records pour l'équipe de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ou encore Draymond Green. Et puis avec vous, les résultats de la nuit, Idrissa.
Eh bien, Golden State a été battu par Houston 122-121. En revanche, les Cavaliers ont battu Boston, les Celtics, et 102-99. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Au Kenya, la Cour suprême a clarifié hier le rôle de la commission électorale dans la vérification et l'annonce des résultats du nouveau scrutin prévu le 26 octobre. Le 1er septembre, elle a invalidé la réélection de Uhuru Kenyatta parce que les résultats publiés n'avaient pas été confrontés aux résultats des procès-verbaux des 40 883 bureaux de vote. La plus haute instance juridique du pays a précisé qu'il est du devoir du chef de la commission de vérifier l'exactitude des résultats et de saisir la Cour suprême au cas où surgiraient des incohérences. Pour savoir si cette décision limite la possibilité de falsification des résultats, Eric Manirakiza, adjoint Benoît Hazard, chercheur auprès du CNRS et spécialiste du Kenya.
Il y a un débat qui est en train de se mettre en place entre la Cour suprême et la Commission électorale, sachant que les accusations de la Cour suprême envers la Commission électorale sont profondes, extrêmement graves, et qu'elle a pointé cette commission comme étant la principale institution qui a failli dans l'organisation des élections.
Est-ce que c'est une décision qui renforce un peu plus le contrôle de la Cour suprême sur la sincérité du scrutin?
J'ai un peu de mal à penser ça aujourd'hui, dans la mesure où la Cour suprême a été pointée du doigt par le pouvoir en place, qu'un certain nombre de parlementaires aussi proches au Kenyatta, dans la mouvance Kenyatta, ont demandé la traduction en justice des juges qui font partie de la Cour suprême. Et en fait, là, il est vrai que ces juges sont plutôt en mauvaise posture et au fond, leur prise de position pourrait très bien leur coûter cher, malheureusement.
Raila Odinga a annoncé son retrait du scrutin du 26 octobre. Mais il n'a pas formalisé ça. Est-ce que c'est une décision qui pourrait, par exemple, l'encourager à rester dans la course?
Dans la situation actuelle, en tout cas pas dans la perspective du 26 octobre, qui est la date prévue par la IBC pour la tenue des élections. Mais en fait, c'est un retrait qui est une manière de poser des conditions à la tenue de nouvelles élections. Et effectivement, il n'a pas formalisé la chose à l'aide d'un formulaire, là encore, qu'il doit transmettre à la commission électorale, ce qui pose, à mon sens, pas mal de problèmes à la commission électorale, puisque la commission électorale a annoncé qu'elle réintégrait des candidats qui n'étaient pas dans la shortlist au mois d'août et qui avaient par ailleurs été exclus du scrutin début septembre par cette même commission électorale. Elle les a réintégrés dans une liste qui a été publiée il y a à peu près une semaine pour que Uhuru Kenyatta ait des candidats en face. Mais dans cette liste ne figure pas le nom de Raila Odinga. Donc là, il y a un vrai flou aujourd'hui. Il est très clair que la perspective qui est celle, ça n'est plus le 26, puisque eux, en fait, table sur le fait qu'ils puissent tenir des élections dans courant du mois de novembre. Et en fait, tout le rapport de force qui se joue aujourd'hui dans la rue, c'est bel et bien sur cette question-là. Et donc, on va vers un scrutin très, très incertain à l'horizon du 26 octobre. On est, je crois, dans une situation extrêmement alarmante. Et là, il faudrait effectivement que la communauté internationale s'en intéresse et s'en empare parce que y a la situation est... Enfin, tous les voyants sont vraiment plus qu'au rouge, quoi.
Benoît Hazard, chercheur auprès du CNRS et spécialiste du Kenya, il nous parlait des instructions de la plus haute instance judiciaire du Kenya à la commission électorale kenyane.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtrie comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Chebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En Afrique, environ 70% de la population est constituée de jeunes de moins de 35 ans, dont 72% qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. La pauvreté est plus accentuée chez les jeunes filles et chez les femmes. En Côte d'Ivoire, par exemple, 75% des Ivoiriennes vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré les dispositions prises par le gouvernement. D'Abidjan, notre correspondante Narita Namasté.
Le dernier rapport 2017 sur l'état de la population présente un tableau peu reluisant de la pauvreté chez la femme en Afrique. Un rapport qui prévient que si l'on ne prend aucune mesure pour réduire les inégalités et que l'on ne parvient pas à protéger les droits des femmes les plus pauvres, le monde pourrait faire face à des troubles et la paix pourrait être compromise et les objectifs mondiaux de développement risquent de ne pas être atteints. Mbagué Ngom nous donne la vision des Nations Unies pour la population.
La vision du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est vraiment d'arrêter cette spirale descendante actuelle de l'inégalité. Mais il faut faire au moins 3, 4, voire 5 choses. La première, que les sociétés regardent leurs filles et femmes comme des partenaires au développement et leur accordent les opportunités d'une vie avec dignité.
La vie d'une femme en Côte d'Ivoire n'est pas du tout facile. Elles sont souvent privées de scolarité et quand elles parviennent à être scolarisées et se font une place, elles occupent toujours le second rang. Dans le secteur formel, elles occupent un emploi sur 3 et gagnent en moyenne 2/3 du salaire de leurs collègues masculins. Selon Mme Kaba, les disparités entre les gens ont engendré les pertes évaluées à 105 milliards de dollars en Afrique subsaharienne en 2014. Et si la Côte d'Ivoire parvenait à réduire les discriminations à l'encontre des femmes sur le marché du travail et faciliter l'accès à la planification familiale, ce pays pourrait engranger plus de 6 milliards de dollars supplémentaires l'année et verra son économie boostée.
Tous les investissements qui sont faits dans un pays deviennent caduques à peine mis en œuvre. Et donc il faut limiter quelque part le nombre d'enfants que nous faisons, ou bien il faut planifier les naissances pour que les femmes, elles aient le temps de s'occuper à leurs activités.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le combat se tourne vers l'éducation de la santé reproductive. Dans ce pays, la planification familiale est cruciale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, lancement des travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Gao dans le nord. Le projet est conjointement financé par la MINUSMA et l'Allemagne. Grâce à sa nouvelle contribution au fonds fiduciaire en soutien à la paix et à la sécurité au Mali, qui s'élève à 12 millions d'euros. Sur place, notre correspondant Kassim Traoré.
Ce lundi, l'aéroport de Gao était en effervescence. Ce n'était pas un exercice militaire, même si les FAMA veillaient au sol. La sécurité aérienne était assurée par la MINUSMA, le tout contrôlé par Barkhane, qui a aménagé une partie de la vaste cour de l'aéroport de Gao pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de la cité des Askia. Le maître d'œuvre est Razel.
Cela consiste donc à moindre coût, mais avoir une structure efficace selon les prescriptions aéroportuaires, la lithostabilisation qui va être employée sur ce site-là et qui consiste donc à malaxer la piste actuelle. La piste principale est d'une longueur 2600 mètres, largeur utile pour l'avion 45 mètres, plus deux fois 7,50 mètres sur les côtés.
Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'aménagement a participé à la cérémonie de lancement, Mohamed Saleh Anadi.
Le projet qui nous réunit a été financé et initié par l'aménagement et la République fédérale d'Allemagne. Avec ce projet de réhabilitation de la piste de l'aéroport, la mission, l'aménagement et ses partenaires pourra assurer le transport sécurisé des partenaires et de la population. Le déploiement effectif de ces troupes et surtout l'acheminement des équipements vers les camps les plus isolés.
Lors de ce lancement des travaux, le nouveau chef de l'exécutif régional n'était pas dans sa peau. Le colonel Sidiki Samake était à sa première cérémonie à Gao en tant que gouverneur.
Je ne suis pas du tout surpris par cet élan de solidarité que l'aménagement a toujours montré à l'État malien. Et je ne suis pas surpris aussi que l'Allemagne s'associe à l'aménagement pour nous réaliser cette infrastructure. Et je voudrais vous dire que cette infrastructure permettra de rentabiliser ou d'opérationnaliser la piste existante.
Vu la dégradation de la route Sévaré-Gao, les maires adjoints de la ville trouvent que la réhabilitation de la piste de l'aéroport est une bonne chose. Yacouba Maïga.
Je suis très satisfait cette fois parce qu'on a une opportunité pour quand même relayer une certaine difficulté qu'on a par rapport à la route Gao-Sévaré, malgré son état dégradant.
La balle est désormais dans les camps de la société Razel, qui a 10 mois pour finir les travaux de la piste principale avant la deuxième phase de réhabilitation qui va concerner les salons et les autres infrastructures aéroportières. Kassim Traoré, de retour de Gao, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
L'Afrique est à l'honneur cette semaine au siège des Nations Unies à New York à l'occasion de la 8e édition de la Semaine de l'Afrique. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la communauté internationale doit porter son attention plus sur le potentiel du continent africain que sur ses problèmes. Pour savoir davantage sur cet événement, Jacques Aristide s'est entretenu sur place avec le conseiller spécial par intérim pour l'Afrique, David Mehdi Hammam.
L'idée, c'est de créer une plateforme pendant une semaine, d'avoir un échange qui soit honnête, qui soit direct, afin de voir quels sont les progrès qui ont été accomplis, quels sont les défis qui sont encore en face de nous, et quelle est la manière justement d'adopter ou d'adapter le chemin à suivre dans le futur, dans les années à venir. Donc on essaye de plus en plus de ramener le maximum d'intervenants et le maximum donc d'experts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc on concerne toutes les questions qui concernent le développement et le développement durable en Afrique, avec bien sûr en considérant l'aspect paix et sécurité.
Le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il était important de mettre l'accent sur l'énorme potentiel au lieu de se focaliser sur les problèmes. Partagez-vous cet avis ?
Absolument. Si vous regardez en fait l'Afrique, un paradoxe, mais si on regarde de près, c'est pas un paradoxe, c'est juste un petit retard au niveau du développement. L'Afrique regorge de ressources minières, humaines, de potentialités à tous les niveaux. Si l'Afrique compte par exemple 30 à 40% des réserves en diamants mondiales, 10 à 20% des réserves en pétrole et en gaz. Et je veux dire, la liste est longue. À peu près 15% de la population mondiale se trouve en Afrique, dans 60% à moins de 24 ans. Et maintenant, c'est essayer de prendre toute cette richesse, de prendre toute cette énergie de jeunesse et d'adopter justement le plan qui a été mise en place par l'Union africaine dans le contexte de l'agenda 63, de rassembler toutes ces forces du continent afin de pousser, donc de donner un boost en avant de ce continent, de ce jeune continent. En fait, c'est le plus ancien géographiquement, mais en termes de population, c'est l'un des plus jeunes et le plus riche du reste.
Il y a également tous ces autres problèmes que rencontre l'Afrique, ces sempiternels conflits qui minent le continent. Pas plus tard que samedi dernier, il y a eu cette attaque en Somalie. Donc c'est un problème aussi qu'il faut prendre à bras-le-corps, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Mais je dois rappeler, si vous prenez une période de long terme et vous voyez les perspectives, il y a moins de conflits en Afrique. C'est plutôt des problèmes à l'intérieur d'un État, justement parfois à cause de la mauvaise gestion des ressources minières et des ressources naturelles. Et de plus, il y a une autre dimension qui s'est ajoutée, c'est le terrorisme et la violence de certains jeunes qui vient du fait qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est devenu un problème régional, ce n'est plus local dans la mesure où maintenant Al-Qaïda ou Boko Haram peut malheureusement avoir un terrain beaucoup plus large. Et donc c'est une dimension régionale, c'est une dimension internationale qui peut résoudre le problème. Mais encore faut-il essayer, le principal problème, c'est la création d'emplois vers les jeunes.
C'était David Mehdi Hammam, le patron du Bureau Afrique de l'ONU, interviewé au siège des Nations Unies à New York. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia.